Pauline Pucciano, Titania 3.0, chapitre 3, En vol. Le lendemain soir, à la même heure, Jean, déconnecté de son Hervé, guettait la foule. Il ne tarda pas à voir apparaître au loin une silhouette qui lui plut, resplendissante de cette grâce délicate qui l'avait déjà séduit la veille. Lorsqu'il la détailla, il sut que c'était elle. Il n'aurait pu dire si elle avait modifié quelque chose dans sa tenue, mais le même brouillard irisé de nacre et d'argent paraissait la nimber. Il aima à nouveau ses cheveux blancs comme un nuage autour de son visage pâle et lunaire, ses yeux limpides, dont la surface bleu lavande couvrait des profondeurs aquatiques, sa peau parsemée de ce qui apparaissait comme une poussière d'astre tombée d'un météore. Elle ne souriait pas, concentrée sur son monde intérieur, et traversait la foule bigarrée avec l'indifférence majestueuse d'une reine. Si le mot « art » désignait l'unité artificielle et harmonieuse de toute la personne, elle était décidément la personne la plus « art » qu'il eût jamais rencontrée. En la suivant du regard, tandis qu'elle s'approchait de son pas léger, il constata qu'elle attirait les regards des passants. La beauté d'apparence naturelle, celle par exemple des policiers jeunes et sains que les siècles précédents avaient adulés, était devenue si banale qu'elle n'attirait plus les regards. On ne se retournait que pour les chefs-d'œuvre de la construction personnelle. Le « self-art », comme on l'appelait outre-océan, avait, comme tous les arts, ses génies, ses ratés, ses écoles, ses chefs de file. Arrivée à sa hauteur, elle tourna les yeux vers lui et, sans se déconnecter de son Hervé, elle inclina légèrement la tête. « Ça ne vous dérange pas si on s'éloigne de la foule ?» demanda-t-elle. « C'est un peu direct ?» fit-il observer en souriant. « Qu'est-ce que vous vous imaginez ?»« Je ne sais pas, que vous m'attirez dans un traquenard d'une sorte ou d'une autre. » « Libre à vous de ne pas me suivre. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec ce genre de convenance. » Elle avait parlé simplement, sans provocation. Il sentit qu'il était sur le point de la perdre à jamais dans la foule et se ravisa. « Où habitez-vous ? » « Assez loin d'ici, mais je dispose d'un véhicule personnel. » Jean ouvrit la bouche comme pour parler et, à nouveau, se ravisa. Les véhicules personnels, depuis la grande crise énergétique, étaient devenus si chers qu'ils représentaient un luxe inouï. « Je ne suis jamais monté dans un véhicule individuel, » dit-il simplement. « Ce sera la première fois alors, » déclara-t-elle en haussant les épaules. Puis, sans l'attendre, elle poursuivit son chemin, fière, le pas égal, la tête haute, le regard tourné vers l'intérieur, impossible à aborder. Jean la suivit tant bien que mal, presque avec la même impression qu'en suivant le sécuribot. Il ne craignait pas la souffrance physique cette fois, mais le regret immense qu'il aurait de la perdre, de perdre la possibilité de son amour, qui planait comme un ange au-dessus de leur tête mal assortie. Ils quittèrent la fontaine Stravinsky et s'engagèrent sur le boulevard Sébastopol, avant de pénétrer dans un parking. Du temps du cinéma 2D, les parkings étaient des lieux coutumiers pour des meurtres et des violences urbaines, remarqua Jean. « Ah bon ? » dit Titania en riant franchement. « C'est bizarre ?» Et en effet, cela était difficile à croire dans cette débauche de marbre, de parfums discrets et d'hôtesses modifiées. « Libère-t-on Titania ?» demanda l'une d'entre elles, très respectueusement à la jeune femme. « Oui ?»« Votre véhicule a été entièrement lavé, assaini et parfumé, avec les compliments de la maison. Voici votre facture. N'hésitez pas à revenir en ville dès que vous le souhaitez. Les parkings clés d'or vous souhaitent... »« Oui, oui, vous pouvez appeler le baratin, » dit Titania dédaigneusement, tout en manipulant son Hervé afin de procéder au règlement. « Quel numéro ?»« Votre véhicule est déjà placé au niveau de la porte de sortie. Il n'attend plus que vous. » Jean ne pouvait s'empêcher de tout observer avec gourmandise. C'était la première fois qu'il fréquentait ce monde invisible du grand luxe, un monde qui avait cessé de se montrer depuis presque un siècle, mais qui perdurait dans l'ombre, discrètement, comme un univers parallèle dont seuls quelques initiés connaissaient les codes. Le véhicule individuel de type semi-volant paraissait assorti à Titania, ou plus exactement, il paraissait être l'œuf dont elle venait de sortir, toute fraîche et close. D'un blanc nacré, aux diaprures d'argent, il semblait presque organique, avec ses écailles synthétiques et sa figure de proue stylisée, qui représentait une sorte d'animal profilé. Titania manipula son Hervé, qui émit un son modulé. L'œuf se fendit, s'ouvrit, révélant un habitacle impeccable et luxueux. Il s'agissait bien sûr d'un modèle automatique. Les modèles pilotables manuellement n'étaient pas en vente pour les particuliers. Titania actionna à nouveau son RV pour entrer dans la destination, puis invita Jean à prendre place en face d'elle, et l'œuf se referma. Les parois, opaques de l'extérieur, étaient transparentes de l'intérieur, et Jean ne put s'empêcher de se coller à la vitre. Le véhicule sortit en roulant par une porte en hauteur située au second étage, puis il y eut un bruit de propulsion, une sensation de modification de la pesanteur, et l'œuf se mit à survoler, lentement, à quelques mètres du sol, le paysage parisien. « Quelle vue fantastique » murmura-t-il. « Arrêtez de dire des banalités, ou je vous fais descendre. » Il posa ses yeux sur elle et comprit qu'elle l'observait, lui, avec la plus grande acuité, tandis qu'il se comportait comme un enfant devant toutes ces choses dont elle était probablement blasée. « Excusez-moi, dit-il, je n'ai jamais bien su dissimuler mes sentiments. Trouvez-vous banal l'émerveillement ? Je dirais au contraire qu'il est le sentiment le plus rare. »« C'est mieux, dit-elle en se déridant, mais sans abandonner son œil inquisiteur. « Je vous autorise à regarder par la vitre. » Ses doigts coururent sur le clavier du RV à une vitesse prodigieuse. « Je vous ai programmé un itinéraire touristique, » dit-elle. « Nous avons bien le temps. » « Vous paraissiez pressé tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de temps à perdre avec ce genre de convenances. »« Avec les convenances, je n'ai pas de temps à perdre. Mais pour votre émerveillement, c'est très différent. »« Merci, » dit Jean, en détournant son regard vers la vitre. Il ressentait sa présence très fortement dans la pénombre du véhicule et du soir qui tombait. Elle était parfaite, d'une perfection presque irréelle, et il la désirait de plus en plus ardemment. Mais son cœur battait aussi devant les beautés de la ville. « Regarde Paris !» lui disait sa mère, et il ne pouvait s'empêcher de s'engorger les yeux. Ils survolèrent d'abord, coup sur coup, le nouvel hôtel de ville, qui ressemblait à une nef spatiale échouée sur son immense parvis, et Notre-Dame, toute nimbée d'un éclairage nocturne, qui sublimait ses dentelles et cachait la lèpre de ses façades noircies. Puis ils longèrent la Seine, indolente, qui prenait dans la pénombre un air mystérieux, et passèrent devant la conciergerie dont les augustes murailles étaient entièrement recouvertes d'écrans publicitaires. Tout autour, les avenues illuminées, les palais, les places arborées où se pressait une foule toujours nouvelle de buveurs et de mangeurs, les tours de verre lancées à l'assaut du ciel formaient une mosaïque surprenante. L'ancien musée d'Orsay, qui était devenu l'une des salles de spectacle les plus en vogue, grouillait de monde, tandis que l'hôtel des Invalides, austère et comme à l'abri du siècle, somnolait au centre de sa cour silencieuse. Des militaires en faction regardèrent un instant le véhicule flottant avant de détourner le regard. Au loin, on devinait la place de la Concorde, dont l'obélisque, restitué à l'Égypte, avait été remplacé par un colosse, et la tour Eiffel, la tour de Mars et la tour du Triomphe, qui se dressaient comme des phares au-dessus de la mer urbaine. Ces images, qu'il avait déjà vues mille fois sur écran, lui semblaient entièrement nouvelles et s'engouffraient dans son âme avec la violence d'un éclair. Il était en train de vivre un de ces instants qu'il n'oublierait jamais. La voluptueuse flottaison du véhicule, ainsi que le regard lavande, brillant, fixé sur lui, participait bien sûr de l'émotion singulière qui l'étreignait. Les jambes parfaitement lisses de Titania, à quelques centimètres à peine des siennes, l'attiraient de façon magnétique, et, tout en continuant à regarder au dehors comme aurait pu le faire un vieil amant, il passa le dos de sa main très doucement, de sa cheville jusqu'à son genou, où il s'arrêta. Il la regarda. Elle n'avait pas changé d'expression. « Récitez-moi l'un de vos poèmes. » dit-elle en fermant les yeux et en programmant distraitement son RV. Jean s'exécuta, d'une voix grave et sonore. Flottant dans le ciel blême au-dessus des structures, suivant aveuglément la courbe programmée de mon désir, de mon effroi, de mes censures, la beauté entre en moi comme un frisson glacé. « Continuez, » murmura-t-elle en lui prenant la main, les yeux toujours fermés. Au ventre du serpent aux écailles nacrées, l'espace est refermé et le temps immobile suspend l'acte interdit de ma main malhabile, tandis qu'un vent balaye l'histoire et les cités. Elle soupirait à présent, presque comme si elle s'offrait au plaisir, et il continua. « Qui es-tu, fille de neige et d'artifice ? De quels milliers de noms couvres-tu le calice rayonnant et secret de ton identité ? qu'étreindrai-je ce soir, miracle ou maléfice, quand ma main brisera comme en un sacrifice l'éblouissante glace de ta nudité. Jean resta silencieux quelques secondes, dans l'invasion de son désir, et il approcha ses lèvres des siennes. Le contact fut très doux, mais bref, car elle s'écarta. « Pas tout de suite, » dit-elle. Puis elle sourit, l'un de ses doigts suspendu au-dessus d'une touche de son clavier, sur laquelle elle finit par appuyer de manière théâtrale. « C'était parfait, » conclut-elle, « parfait !» Jean secoua la tête pour revenir à la réalité. « On dirait que vous parlez d'une performance, » dit-il. Elle sourit encore. « C'est le cas. J'ai enregistré ce moment. Vous venez de m'offrir le souvenir 3D le plus poétique et le plus érotique de toute mon existence. Vous voulez le lire ?»« Et me mettre à votre place ? Non, sans façon. L'immersion virtuelle me donne la nausée, et je trouverais ça très étrange d'échanger ainsi les rôles autour d'un instant que nous venons de vivre. »« Vous avez tort. » « Je suis sûre que personne n'a jamais été ému par l'un de vos poèmes autant que moi. Je suis tombée amoureuse de votre poème hier, et celui que vous venez de composer m'a presque fait défaillir. Vous n'êtes pas curieux de savoir ce que je ressens ?» Jean regardait la nuit à travers la vitre, mais sans la voir. La présence de Titania avait estompé et comme effacé toute réalité extérieure. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Nulle part, » dit-elle d'un air mutin. Cela suffit amplement pour ce soir. Vous trouvez ? Lança-t-il, malheureux à l'idée de la quitter si vite. Nous avons vécu un moment parfait, n'est-ce pas ? Il faut le savourer le plus longtemps possible. Nous nous reverrons demain. Il avait envie de protester, mais de toute évidence, c'était elle qui décidait. Ils restèrent silencieux pendant le reste du trajet, les yeux fixés machinalement sur le paysage nocturne qui n'exerçait plus sur eux le charme puissant qu'il avait eu au crépuscule. Elle le déposa à la porte aérienne d'une tour commerciale, voisine de son appartement, et il se retrouva soudain seul dans la fraîcheur d'une nuit urbaine pleine de bruit, de bousculades et d'odeurs mêlées. Mais un sourire béat flottait sur ses lèvres, et il parcourut les rues en direction de son appartement, absorbé en lui-même, revivant en boucle l'heure passée avec Titania. Lorsqu'il rentra chez lui, il eut à peine le temps d'avaler une dose nutritive. Deux appels presque simultanés résonnaient déjà, étrangement dans sa routine bouleversée. L'un venait du commissariat, l'autre d'un Hervé inconnu. Il prit à contre-cœur celui du commissariat. « Corville ?»« Oui. » Le visage de l'étourneau sur écran paraissait synthétique, comme celui d'un personnage virtuel. La peau trop pure, les dents trop bien rangées, la coupe de cheveux trop léchée. « On peut savoir ce que vous attendez ?»« Je vous demande pardon. » Pour faire votre rapport, Liberton Corville, ou bien dois-je vous envoyer un sécuribo à domicile ? Jean ne fulminait pas seulement à cause de la grossièreté des manières de l'agent, qui contrastait désagréablement avec sa perfection plastique. Il éprouvait une réelle souffrance à l'idée que l'instant merveilleux qu'il venait de vivre devait être livré en pâture à des étrangers. Mais il savait aussi qu'il ne se débarrasserait pas du policier sans lui avoir jeté un os. Il n'avait pas le choix. Eh bien, elle... « Mais vous êtes attardé, Corville. Je vous ai donné un crypteur. Croyez-vous que ce soit pour vous entendre parler à tous les vents ? Vous avez 10 minutes avant la venue d'une armoire roulante spécialement programmée pour vous faire monter à bord. » La communication fut coupée, abruptement, et Jean se retrouva balbutiant des protestations inutiles devant son écran indifférent. La seconde personne qu'il avait appelée avait laissé un message. C'était Titania. Il s'agissait d'un message vocal, sans diffusion vidéo, mais il reconnut sa voix tout de suite. « Je n'aurais pas dû vous quitter, » dit-elle. « Rejoignez-moi dès que vous pouvez, au 278 boulevard de Grenelle. » Jean écouta le message 2, 3, 4 fois. La voix était toujours légèrement rauque, à peine plus forte qu'un murmure, comme un espoir secret. Une joie profonde succéda, ou plutôt se superposa, à la colère et au sentiment d'impuissance qu'avaient provoqué les tourneaux. L'amour de cette fille valait tous les ennuis du monde. Il se saisit du crypteur et envoya un message rapide. « J'ai été appelé à l'instant par Titania pour me rendre à son domicile. Je vous ferai parvenir un rapport complet demain. La relation de confiance paraît bien engagée. La demoiselle semble particulièrement riche. » Il se relut, en faisant attention à chaque mot. Il n'avait pas donné l'adresse. Il effaça d'ailleurs le message vocal de Titania à tout hasard. Il était resté vague, à dessein. La fortune de la jeune fille devait être connue de tous, et il ne la compromettait pas en la mentionnant. Pour le reste, Il y penserait le lendemain et trouverait un moyen de gérer cette situation impossible. En attendant, il y avait devant lui tout l'espace mystérieux et enivrant qui le séparait du jour suivant, une nuit inconnue et vertigineuse où les sentiments et les voluptés s'éveilleraient peut-être de leur lourd sommeil quotidien. Il calcula l'itinéraire sur son RV, décida de marcher jusqu'à la Concorde et de prendre le métro ensuite. Ses oreillettes branchées, il écouta une symphonie post-électronique qu'il aimait particulièrement et ne fit attention à rien de ce qui l'entourait. Sur les plafonds de la rame, la chaîne Happenings tournait en boucle avec son présentateur vedette, Stéphane Locard. Jean posa les yeux sur ce personnage artificieux et volubile, tout droit sorti d'un tableau de la Renaissance, mais il ne le voyait pas réellement. Dans les couloirs aseptisés du métro, où déambulait une foule de somnambules pressés, dans les stries de lumière géante des écrans publicitaires des avenues, dans l'obscurité fraîchissante des ruelles anonymes, l'image de Titania se réfléchissait sur toutes les surfaces. La ville lui paraissait pleine d'elle, mais aussi parfaitement vide. Il se dirigeait vers le nouveau centre de gravité brutalement éclos dans son existence. Ce centre le magnétisait, l'attirait avec une puissance irrépressible. Jean était tombé amoureux. La tour où vivait Titania faisait 58 étages. C'était l'une de ces structures verticales qui avaient fait polémique au XXIe siècle et fini par strier la surface de Paris de 7 flèches démesurées. Une certaine recherche architecturale avait été exigée pour les permis de construire, car c'était avant la grande désétatisation. La tour de Mars présentait de l'extérieur des allures de vitrail cyclopéen, avec une armature métallique rappelant les dentelles gothiques ou mauresques séparant des plaques de verre coloré. L'effet visuel, lorsque le ciel parisien voulait bien se dévêtir de ses haillons de grisaille et offrir le flamboiement d'une vraie lumière, était étonnant. La tour projetait sur tout le boulevard des rayons multicolores et des motifs changeants que faisait parfois disparaître un nuage. La grande désétatisation avait vu la fin des permis de construire et autres formalités administratives. Il avait été impossible dès lors d'endiguer l'enlaidissement inévitable de la ville. Une éruption de bâtiments sans harmonie et de tours immenses avait crevé le visage de la cité comme des excroissances monstrueuses. Les 7 tours, comme on les appelait, étaient devenus des monuments à part entière, témoins d'un temps où l'État veillait aussi à préserver le patrimoine esthétique. Les loyers, bien entendu, y étaient fort chers. Jean rappela Titania à l'entrée de la tour, puis, muni des autorisations nécessaires, parvint à franchir ses portes sécurisées et son labyrinthe d'ascenseurs. Titania habitait au 53e étage, et rien n'eût pu préparer Jean au choc qu'il éprouva en entrant. Le vaste salon dans lequel il pénétra était muni de baies vitrées sur 2 côtés. Il n'était pas éclairé de l'intérieur, et la vue sur Paris était étourdissante. Les monuments, un peu plus gros que les immeubles et surtout beaucoup mieux illuminés, paraissaient les miniatures d'un jouet géant. Les nouveaux boulevards, 3 fois plus larges que les boulevards haussmanniens, découpaient les arrondissements comme des pièces de puzzle. Les véhicules personnels, à l'allure lente et majestueuse, flottaient dans les airs comme d'indolentes créatures volantes à plus de 100 mètres au-dessous d'eux. La tour Eiffel éclatait au loin, et les 6 autres tours, plus ou moins plongées dans l'ombre, se devinaient, géantes pétrifiées sur ce scintillement silencieux. Titania se tenait muette, elle aussi, et contemplait la vue avec lui. « Vous attendez que je me remette du choc ?» finit-il par demander en souriant. « Oui, je vous laisse le temps de vous émerveiller à nouveau. » Il tourna son regard vers elle. « C'est drôle, » dit-il. « Je n'ai pensé qu'à vous pendant tout le trajet, sans jeter un seul regard sur Paris. Et lorsque je vous vois enfin, c'est la ville que je regarde. » « Vous êtes sensible à la beauté, » dit-elle, comme pour l'excuser. « Je ne vous en ferai jamais reproche. » Il soupira et se détourna presque à regret du panorama. Titania s'était changée. Elle portait une tunique de soie ivoire, et ses cheveux vaporeux, arachnéens, étaient relevés en un chignon savamment négligé qui découvrait un cou velouté d'une grâce de cygne. Des diamants minuscules et particulièrement scintillants ornaient sa peau, ses oreilles finement ourlées, sa nuque, ses omoplates. Elle n'avait pas de chaussures, et au bout de ses longues jambes où se dessinait à peine un tatouage phosphorescent, ses pieds nus frôlaient le sol sans un murmure. « Je suis certes très sensible à la vôtre, » dit-il en s'approchant. Elle le laissa s'approcher et effleurer son visage, son cou, son épaule. Elle se hissa même sur la pointe des pieds pour embrasser ses lèvres, chastement, fugitivement, comme pour se promettre. « La beauté se mérite, » dit-elle tristement. Jean eut un petit rire. « Je n'en attendais pas moins de vous, » dit-il. « J'ai un aveu à vous faire avant de continuer. »«
Je vous écoute. »
« Nous ne nous sommes pas rencontrés par hasard. » Jean, surpris, fronça les sourcils. «
N'êtes-vous pas tombé par hasard sur mon poème ?»«
Non. J'étais à la recherche d'un poète et j'ai sillonné le réseau pendant plusieurs jours, avant de vous choisir. » Jean ne savait pas s'il devait se sentir flatté ou mécontent. Cette fille voulait toujours tout maîtriser, et pourtant, quelque chose l'émouvait en elle, quelque chose qu'elle-même ne parvenait pas à contrôler. L'expression de son regard, peut-être, qui laissait filtrer comme une virginité. « Pourquoi diable aviez-vous besoin d'un poète ?» Elle éclata d'un rire amusé. « Cela vous étonne qu'on cherche quelqu'un comme vous ?» Il sourit à son tour. « Depuis que je vous ai rencontré, plus rien ne m'étonne. » Elle se tourna vers un plateau qu'elle avait préparé et qui contenait deux beaux verres anciens, probablement du cristal, emplis d'un liquide lactescent. « Il vous faut boire cela d'abord. » Il eut une hésitation, puis saisit le verre et but. Elle l'observait avec amusement.
« Et si c'était du poison ?»«
Je ne pourrais pas rêver plus belle mort, » dit-il en fronçant les sourcils, car le goût doux amer de la boisson lui restait dans la bouche. « Il s'agit d'une préparation qui aide à l'immersion 3D, » expliqua-t-elle en buvant le sien à petites gorgées. « Cela vous évitera la nausée et tous les autres effets secondaires. » Jean sentit sa poitrine se contracter un peu. Le désir, mais aussi la peur, l'agaçait délicieusement. « Et maintenant suivez-moi, » dit-elle en lui prenant la main. Il avait renoncé à prendre l'initiative et se laissait aller au programme qu'elle avait manifestement préparé à son intention. De dos, traversant son appartement luxueux, où la nuit dévoilait par grands rayons rectangulaires certains pans de l'ameublement, tandis que d'autres restaient dans l'obscurité, Titania était encore plus royale que dans la foule. Elle semblait l'incarnation miraculeuse du lieu. Jean ne put s'empêcher de murmurer des vers qui s'écoulèrent de lui comme des larmes ou des aveux. Sur la cime isolée des montagnes urbaines, le monde en équilibre entre nuit et silence tournoie dans une main d'ivoire souveraine, et j'attends, en tremblant, que l'infini commence. Mais qui es-tu, reine de chair et de diamant, dont les éclats d'étoiles ont des lueurs dansantes, mais dont la lèvre épaisse et la main frissonnante exhalent le parfum terrestre des amants. Titania se retourna et s'accrocha à Jean, avec toute la force furieuse d'un désir longuement contenu, puis elle s'immobilisa et se retira, refluant comme une marée. « Regarde, » murmura-t-elle, en l'attirant dans une autre pièce. Elle venait de le tutoyer, et cela prolongeait en quelque sorte l'étreinte troublante qui venait d'avoir lieu. L'atmosphère de cette chambre, c'est du moins le seul mot auquel Jean put songer en y pénétrant, était très différente de celle du salon. Des tentures lourdes, des lumières tamisées presque semblables à des flammes, de larges peintures aux couleurs chaudes entouraient un espace central recouvert de tapis épais et de coussins moelleux. Une petite console, perdue dans cette mollesse archaïque, exhibait une collection de casques d'immersion 3D. Titania invita Jean à s'asseoir auprès d'elle. Il ne la quittait pas des yeux. Elle ouvrit le tiroir de la console, où étaient rangées dans un ordre impeccable des dizaines de puces 3D. Jean n'en avait jamais vu autant d'un seul coup, sauf dans les magasins. Une seule simulation 3D, de moins d'une minute, coûtait un salaire mensuel moyen. On n'avait pas encore trouvé comment les recopier de manière artisanale, et la multinationale LID, Live Your Dreams, avait encore le monopole extraordinairement lucratif de cette industrie en plein essor. « As-tu déjà essayé une simulation ?»«
Juste mes propres souvenirs 3D, » dit-il, « j'en possède trois. »
Titania éclata de rire. Elle se leva, poussa une tenture, et Jean découvrit une armoire où des dizaines de présentoirs s'alignaient, pleins à craquer. « Dans cette armoire, ce sont mes souvenirs à moi, » dit-elle. « Celui d'hier était le 851e. » Jean ne pensait plus au désir qui le torturait l'instant d'avant. Il était pris d'une sorte de malaise. « Évidemment, cela relativise beaucoup l'importance de mon poème. » Titania eut l'air triste. « Je ne cherche pas à t'en mettre plein la vue, » dit-elle gravement. « Je ne cherche pas non plus à relativiser l'importance de ton poème. Je n'aurais pas dû te montrer ça. » Jean sourit. « Ce n'est pas grave. Montre-moi ce que tu avais en tête. » Elle parut hésiter, puis le rejoignit.
Le moment de grâce avait disparu, et Jean sentait la nervosité prendre le dessus en son âme troublée. Toutes ces simulations durent environ une minute. Ce sont les souvenirs de quelqu'un d'autre, d'un acteur 3D qui est habitué à faire taire ses émotions, à se concentrer uniquement sur ses sensations. Toutes ces puces sont en double, et nous nous immergerons ensemble à la même seconde exactement. Tu ne les as jamais essayées ? Si, mais cette fois-ci je t'offre cette expérience, comme si je te faisais découvrir un lieu que j'avais déjà visité. Jean s'humecta les lèvres du bout de la langue, comme à chaque fois qu'il se sentait soumis à un stress ou à une perte de contrôle. Il ferma les yeux une seconde. Il n'aimait pas l'immersion 3D. Il ne l'avait jamais aimée. Cette plongée dans un autre temps, lorsqu'il s'agissait de ses propres souvenirs, était déjà déstabilisante. Mais une plongée dans une autre conscience lui paraissait encore plus angoissante. « Détends-toi » entendit-il dire Titania, avant de la sentir sur son visage, sa bouche, ses cils, ses cheveux parfumés. Elle l'embrassa longuement, savamment, et lorsqu'elle se dégagea encore une fois, il était prêt à consentir à tout. Il ouvrit les yeux vaincus et s'empara du casque qu'elle lui tendait. Et il ne la posséderait qu'à la fin de cet étrange parcours initiatique. Cela n'avait pas été dit, mais lui apparaissait comme une évidence tacite. Que dirais-tu d'une promenade dans le temple d'Abou Simbel ? Tu n'aurais pas quelque chose de moins monumental ? Elle chercha parmi les puces et en dénicha une. J'ai exactement ce qu'il nous faut. Une promenade à la Villa Cimbrone, en Italie. C'est charmant. Jean soupira et vit qu'elle ne prenait pas de casque, mais fouillait avec ses doigts derrière son oreille, sous ses cheveux. Tu as un implant neurologique ? Oui, dit-elle simplement. Si ce n'était pas le cas, comment aurais-je pu enregistrer mon souvenir 3D dans le véhicule tout à l'heure ? Mais cela coûte une fortune. Crois-moi, je ne l'ai pas volé, dit-elle gravement. J'ai dû payer le double pour l'obtenir, parce qu'il était hors de question de l'implanter par les canaux officiels. Je n'ai pas le droit de modifier mes organes internes. Que veux-tu dire ? Là où je travaille, c'est interdit, dit-elle un peu abruptement, pour terminer la conversation. Mais ne pensons pas à ça, veux-tu ? C'est un endroit merveilleux, près de Ravello, une ancienne villa romaine qu'un riche anglais a entièrement restaurée et décorée au XIXe siècle. Sa terrasse se nomme « Terrasse de l'infini ». « Allons-y, » dit Jean, intrigué. Elle saisit sa puce et l'appliqua dans son hub crânien sans qu'il y parût, tandis que Jean, les mains tremblantes, insérait la puce dans son casque. Des ondes puissantes allaient traverser ses cheveux, sa peau, son crâne, et faire résonner directement les nervures de son cerveau. Il essaya de ne pas y songer. « Tenons-nous la main, veux-tu, et démarrons la lecture à trois. Un, deux, trois. » Ce fut brusque, comme un réveil en sursaut. Paris, la nuit, le boudoir oriental et Titania disparurent comme un rêve. Il faisait jour, le jour doré et rasant d'une fin d'après-midi de septembre. Il marchait le long d'une allée délicieusement ombragée. L'air était plein de senteurs végétales, et le vent tiède apportait des effluves marins. Il était étrange de ne pas pouvoir s'arrêter ou ralentir le rythme de la marche, mais l'afflux de sensations était si paisible qu'on n'en ressentait pas vraiment le besoin. Il arriva devant un kiosque, dont la structure aérée laissait passer la brise et deviner une échappée sur la mer. De la vigne, alourdie par des grappes de raisins encore verts, grimpait le long de ses arcades de bronze. À l'intérieur, sur une mosaïque de minuscules pierres blanches et noires, une diane, en bronze elle aussi, légèrement écaillée par les siècles, paraissait figée en pleine chasse, son pied nu touchant à peine le sol, le sein droit dénudé et gracieux. Jean, ou plutôt l'acteur 3D dont il partageait rétrospectivement les sensations, prit une profonde inspiration. Un bouquet de parfums subtils l'envahit, dans lesquels il reconnut celui des roses, des citronniers et de l'herbe fraîche. Puis il traversa le kiosque, non sans caresser la hanche de diane, douce et chaude de soleil, et déboucha sur une vaste terrasse inondée de lumière. À sa gauche, sur la balustrade de pierre qui paraissait séparer le jardin d'un néant d'azur, une douzaine de bustes antiques de marbre blanc se découpaient sur le bleu insolent du ciel. Il s'approcha du bord, se pencha légèrement, et retint son souffle. La terrasse surplombait l'extrémité presque à pic d'un pan de montagne qui tombait dans la mer. Des jardins en terrasse d'un vert émeraude s'étageaient sous ses pieds, tandis qu'une voie ferrée à flanc de falaise serpentait tout en bas, à plusieurs centaines de mètres, parcourue de wagons minuscules. Il releva les yeux et découvrit l'horizon pur, goûtant la brise marine qui caressait ses cheveux. Puis il pivota lentement pour contempler l'intérieur du jardin, ses bosquets mystérieux, ses faunes de bronze et un petit palais au fond, recouvert de lierre, qui ouvrait, comme des yeux ensommeillés, ses fenêtres gothiques aux délicats modelés. Puis ce fut une sensation de chute, de rupture, et Jean s'agrippa à la main de Titania. « Ah, oh, je déteste l'atterrissage, » maugréa-t-il. Elle rit. « Tu as la nausée ? » ?»« Non. »« Tu as aimé ? » ?»« C'est incroyablement beau, et les souvenirs sont si vifs, si colorés, j'ai l'impression d'y être vraiment allée. Je me demande même si ce souvenir n'est pas plus fort que beaucoup de souvenirs réels. « C'est peut-être le cas, » dit-elle. « J'ai parfois beaucoup de mal à distinguer mes vrais souvenirs des autres. Veux-tu continuer la balade ?» Il n'hésita pas. « Bien sûr. Jusqu'à combien pouvons-nous aller sans pause ?»« Tu n'es pas habitué. Tu ressentiras des effets secondaires au bout du troisième. »« Que me proposes-tu ?» Elle se mit à lire les titres des puces. « J'ai là toutes sortes de voyages. » Abou Simbel, le Taj Mahal, le Grand Canyon, les chutes du Niagara, la cité interdite, et tous les lieux où tu as toujours rêvé d'aller. Y en a-t-il un qui te tente? Qu'as-tu d'autre? Des sensations fortes, des manèges, des sauts en parachute, en chute libre, en apesanteur, des simulations spatiales, de la voltige aérienne, du ski? Non, ça ne me dit rien. Des concerts live, des bains relaxants, des plongées sous-marines, des promenades à cheval, des repas gastronomiques dans un grand restaurant, des méditations de yogi. Un bain dans un lagon avec tous les poissons multicolores? Elle sourit. Je crois que j'ai ça. Récif corallien en Polynésie. Attends, je n'ai pas encore choisi. Tu n'as rien de plus underground? Si, mais je ne te le conseillerais pas pour une première tentative. Quel genre? Violence, guerre, drogue, mort. Mort? Tu veux dire meurtre? Non, je veux dire que l'acteur 3D meurt et que la puce enregistre ses dernières sensations. Enfin, quand je dis acteur 3D, c'est une façon de parler. Quelle horreur! Tu les as déjà testés? Titania parut gênée. J'ai détesté les simulations de violence, mais les simulations de mort sont intéressantes. Elles sont pour la plupart enregistrées par des volontaires, des exécutés ou des suicides assistés. Les morts ne sont pas douloureuses. Jean se raidit un peu, et Titania changea de sujet. « Veux-tu que je te guide ? Je te propose une simulation spatiale. La Terre est si belle vue de l'espace. Et puis, tu choisiras la dernière. » Jean était heureux de la diversion et saisit la seconde puce. Cette fois, il observa Titania, la vit écarter doucement ses cheveux blancs et découvrir les lèvres métalliques de son hub crânien. Ils se reprirent la main, comptèrent jusqu'à trois, et, comme la première fois, le monde s'éteignit. La sensation d'apesanteur était étrange. On flottait et, pourtant, on était enfermé dans le scaphandre d'une façon incommode. La respiration aussi avait quelque chose de malaisé. Le mélange gazeux n'était peut-être pas tout à fait celui de l'atmosphère terrestre. Il n'y avait pas d'odeur, à part celle de plastique et de métal du scaphandre, et pas de bruit non plus, à part celui de sa propre respiration. La voix de Titania lui parvenait comme à travers une grande distance. « Pense à moi lorsque tu la découvriras. » Jean l'avait entendue comme une voix hallucinatoire au milieu de cette réalité qui l'absorbait. Il eut à peine le temps de se demander comment elle pouvait parler en pleine immersion 3D, que sa conscience fut à nouveau happée par les sensations qui saturaient son cerveau. On ne voyait pour le moment qu'une fenêtre fermée par un volet, et le volet doucement s'ouvrait comme une lente paupière. Et là, flottant dans l'espace infini, d'une beauté oppressante et foudroyante, la Terre. Non pas le sol riche et fécond qui porte ce nom, mais le corps céleste dont le bleu profond réfléchit la lumière spatiale. La Terre au milieu d'un firmament rayonnant, tournoyante fixe, hypnotique. Une sensation absolument nouvelle, faite d'angoisse et d'émerveillement, s'emparait de Jean. Il n'aurait su dire si elle était physique ou morale, car elle le prenait aux tripes et élargissait son âme tout à la fois. Il se sentait physiquement écrasé, presque anéanti devant la majesté inouïe de cette sphère irréelle. Mais il la dominait de son regard, il l'embrassait tout entière de son esprit, la comprenait comme un objet de pensée familier. Il éprouvait, en même temps, une humilité profonde et l'orgueil exaltant de l'intelligence qui lui était impartie. Jamais la fragilité et la grandeur de la condition humaine ne l'avaient submergé à ce point. Jamais il n'avait eu la conscience si vive que ce misérable amas de cellules, dans la viscosité d'un corps étroit, parvenait contre toute attente à regarder l'espace infini, à le comprendre, à le sonder. Il tourna la tête et sentit des larmes déborder de ses yeux éblouis, tandis que le balai titanesque des planètes, à perte de vue, dans toutes les dimensions du temps et de l'espace, continuait son cours silencieux, auréolé de lueurs et de nébuleuses. Soudain, Jean eut l'impression de tomber dans le vide et poussa un cri. Il était à nouveau dans l'atmosphère, dans son corps pesant, sur la terre, et Titania lui caressait doucement les cheveux. « C'est assez pour ce soir, » murmura-t-il. Elle lui ôta son casque, puis ses vêtements, et se dévêtit à son tour. Jean, étourdi et chancelant, fixait son corps nu qui semblait miroiter. Il ne la vit pas actionner les commandes qui tamisèrent encore la lumière et diffusèrent une musique mélancolique. Son impression de chute devint soudain délicieuse quand ils s'étreignirent, la tête pleine encore du parfum des citronniers, de la brise marine, de la terrasse de l'infini, en apesanteur, dans le scintillement des diamants qui étoilaient la peau de Titania. Après leur étreinte, Jean avait envie de lui poser toutes sortes de questions. Il lui paraissait impossible de se sentir si proche d'elle sans tout connaître de son histoire. Mais ses yeux fermés étaient comme un mur. Drapée de sa beauté qui n'était plus tout à fait terrestre, Titania dormait, et la couleur ineffable de ses rêves et de ses souvenirs demeurait inaccessible, enfermée à triple tour dans son sommeil. Jean fut pris de l'envie presque irrésistible de se saisir des 850 souvenirs et de s'y plonger. Il lui semblait que la vérité de Titania était là, quelque part dans cette étagère où elle avait déposé sa mémoire. Que découvrirait-il alors? Quel enfant, quelle jeune fille pouvait-elle avoir été avant d'enfiler cet étrange costume qui avait consumé et remplacé sa peau? Quel nom avait-elle porté avant? Que restait-il d'elle-même dans ce corps ensorcelé? L'avait-elle façonné à l'image de son âme ?